Le chapeau musical d'Armando Cox.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Connaissez-vous Claude Maquet ? Eh bien, je vous prie de croire que grâce à notre invité, on va en finir, vous et moi, avec l'ignorance crasse. L'homme qui est assis dans le fauteuil d'en sol majeur est souvent coiffé d'une tarte au porc, un pork pie hat, si vous préférez, avec une élégance qui multiplie les points de vue et surtout un amour obsessionnel pour les pépites d'un monde diasporé. Né en Angola, élevé au Brésil, débarqué un jour à Marseille, en France, ce journaliste chroniqueur musical aura grenouillé pendant des années dans les musiques tropicales, jusqu'à tomber un jour sur l'auteur de Banjo et de Home to Harlem, premier best-seller d'un écrivain noir aux États-Unis en 1932. Jusqu'à tomber de sa chaise, cette fois, lorsqu'il découvre un roman que l'on croyait perdu, de ce Claude Maquet, décrivant comme personne la ville du Vieux-Port, avec ses Noirs de Marseille et ses années 30 interlopes. C'est donc à notre invité chapeauté que l'on doit la publication de Romance in Marseille. Bonjour Armando Cox.
Bonjour.
J'aimerais bien vous réveiller à la sauce en sol majeur. Donne envie de plein de choses. On est bien d'accord en sol majeur. Alors, avant qu'on ouvre ce livre de Claude Maquet et votre vie de nomade aussi, je vous laisse faire votre boulot d'ex-animateur de Radio Grenouille à Marseille et nous dire pour quelle énième bonne raison il faut goûter cette version de Sexual Healing de Marvin Gaye, Armando Cox.
En fait, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Parce que bon, c'est un morceau, on le connaît tellement, on l'avait dansé et écouté. Mais surtout, c'est un morceau joue avec les Brésiliens, ou plutôt revit par les Brésiliens. Ça me rappelle un peu le fameux morceau qu'on appelle le chiclete com banana, un morceau d'un nordestin très connu au Brésil et qui a essayé de joindre la musique tropicale et la musique des gringos. Et ça, c'est justement comment on peut réenchanter le monde en réutilisant toutes ces différentes influences sans forcément les hypostasier. Donc on arrive à faire quelque chose qui puisse aussi faire danser un gringo, un Africain ou un Américain.
Ça y est, on a bien le chroniqueur musical dans le fauteuil d'en sol majeur. Alors, c'est parce que vous avez œuvré en fait pour publier ce roman inédit du Jamaïcain Claude Maquet que vous êtes là sur RFI. Mais évidemment, qui se cache derrière ce chapeau tarte aux porcs que vous portez? C'est ce qu'on aimerait bien savoir.
Pourriez-vous me fredonner une comptine de votre enfance?
Comptine de mon enfance, ce sont des comptines en Kikongo.
Ouais, alors ça fait quoi?
Ça fait Maihunga Iwende Yize. Maihunga Wikela Wize. Voilà, donc c'est une chanson qui en même temps ça fait une respiration. Donc c'est ça,
corps à corps avec maman et bébé.
Exactement.
Pour évoquer cette enfance, on aurait aussi pu mettre des sons comme les radios du monde, ou encore un prêche de votre père, ou encore du gospel, ou encore une cantate de Bach. Explication de ces sons.
Vous l'avez bien compris que mon père était pasteur protestant et élevé dans une mission anglaise. On était quand même nombreux dans la famille, donc on pourrait avoir quand même, rien que notre famille pourrait avoir un chœur tout seul. Donc, finalement, les chansons qu'on chantait, c'est beaucoup plus tard que j'ai appris que finalement c'est Bach. C'est des cantates de Bach et des cantiques de l'église. Et puis, bien évidemment, le gospel qui était très très présent.
Alors vous êtes né en 58, où ça? Entre la RDC, la République du Congo, la Zambie et la Namibie, c'est-à-dire en Angola. Et vous êtes né, Armando Cox, dans une famille nombreuse qui apparemment a eu la grande vertu de vous rendre féministe.
Ah oui, oui, effectivement, je suis né dans une ambiance vraiment très féminin.
Combien de sœurs?
On était 8 frères et sœurs, donc 2 garçons, donc imaginez, plus ma mère, donc ça fait quand même 7 femmes, plus ma grand-mère, ça fait quand même 8 femmes, et avec mon père, on était quand même mis à minorité. Donc du coup, ouais. Je pense que cela a dû aussi influer dans mon caractère, dans mon tempérament, avec des gestes qui peuvent paraître féminins, c'est que par exemple, moi je ne fais jamais pipi debout, je fais toujours pipi assis comme mes sœurs, donc cela... Oui, parce que mes sœurs, ils exigeaient que nous, les mecs, on puisse aussi s'asseoir. Oui. Hein, parce qu'on pour ne pas salir partout, comme on le sait.
Éloge au féminisme, je vous remercie. Vous êtes issu, vous l'avez dit, de l'ethnie Congo, dans le clan des forgerons. Et je crois savoir, grâce à vous, que c'est un clan qui a joué un rôle important dans l'histoire du pays.
Dans l'histoire du pays et surtout dans l'histoire culturelle Congo. En fait, les forgerons, la caste des forgerons, c'est une caste hyper importante, parce que du point de vue traditionnel, le forgeron, c'est lui qui était le détenteur de tous les rituels pour introniser les chefs ou les rois. Donc sans le forgeron...
Pas de royauté, quoi.
Pas de royauté. Mm-hmm. Et il s'est avéré que le forgeron, c'était et aussi qui fabriquait des armes, et cela a coûté quand même un peu cher dans le cadre de ma famille. Ça nous a coûté cher. Mm-hmm.
Alors, je rappelle, l'Angola, c'est 500 ans de présence portugaise. Et puis, si on donne une date, ce sera 1956. Cette année-là, le mouvement populaire de libération de l'Angola se crée, commence une guerre d'indépendance jusqu'en 1975. On va, si vous le voulez bien, pour un seul majeur, poser une oreille sur un documentaire daté de 1965 que vous nous avez conseillé, Armando. Documentaire intitulé « Enquête sur la situation en Angola, vue de Portugal et vue des rebelles », où on a d'un côté la population portugaise métropolitaine qui se montre toujours attachée à ce moment-là à ce que l'Angola reste territoire portugais, et puis de l'autre, la rébellion indépendantiste qui était confinée au nord, à la frontière avec le Congo. Interview clandestine dans le maquis.
José Manuel Peterson, cela fait combien de temps que vous êtes dans le maquis ?
Oh, mais c'est depuis 1961.
Vous êtes ce qu'on appelle dans un camp un terroriste et dans l'autre un patriote. Pourquoi vous battez-vous?
Nous battons pour une cause juste, pour la souveraineté de notre pays. Nous voudrions accéder à l'indépendance.
Comment vivez-vous dans les maquis? Est-ce que les Portugais vous pourchassent beaucoup?
Oh, mais nous souffrons péniblement. Nous faisons des fois 3 nuits sans dormir, et ni alimentation. Tout à l'heure là, nous avons parcouru environ 60 km à pied. Et nous sommes ici, tout près de la rivière, où nous attendons les autres qui sont restés il y a 22 km. Toutefois, nous avons l'espoir qu'ils vont nous rejoindre.
Si vous êtes pris, qu'est-ce qu'on vous fait?
Et si nous sommes pris, on ne nous tue pas facilement.
Est-ce que vous avez à craindre des dénonciations de la part de la population du pays?
Ah, bien sûr. Il y a des moments où certains de nos patriotes nous dénoncent en disant que voilà, ils sont dans tel ou tel endroit. Mais nous ne craignons rien car un peuple déterminé ne recule jamais en arrière.
L'Angola vue des deux camps, c'est un documentaire qui raconte une partie de votre histoire à vous, hein, Armando Cox. Quel souvenir vous gardez de cette guerre d'indépendance?
Ouais, souvenir d'enfance d'abord, hein, d'un enfant qui écoutait tout le temps les parents qui disaient « un jour on va rentrer chez nous, un jour on va rentrer chez nous » et qui, on était déjà exilés.
Alors pourquoi exilés? Comment ça s'est passé?
Exilé parce que les Portugais, la colonisation portugaise, elle est quand même marquée même par un État aussi qui était catholique. Et qu'il y a eu la présence, depuis pratiquement un siècle à peu près, que les missionnaires protestants commençaient à arriver en Angola et acceptés par les Portugais, difficilement. Donc, mon père a été élevé dans une église anglicane, parce que c'est un missionnaire venant de Liverpool, et qu'il y a aussi plusieurs missions protestantes qui sont installées essentiellement dans le nord. Et dans l'ethnie Congo, c'était l'installation essentiellement des missionnaires baptistes et des méthodistes. Et dans le centre, qui est l'ethnie Ovimbundu, on retrouvait plutôt des presbytériens, donc d'influence plutôt américaine et canadienne. Mmh. Et donc, dans ce contexte, ils ont voulu évangéliser par ethnie pour faire une émulation de la présence protestante en Angola. Il s'est avéré que, justement, parmi ces trois ethnies dans lesquelles l'émission était installée, il y a eu trois partis politiques.
Mmh. Et votre père lui-même s'est opposé à cette évangélisation, c'est ça?
Non, il ne s'était pas opposé. En fait, il est entré dans la mission à l'âge de 12-13 ans. Parce que le missionnaire a convaincu mon grand-père comme quoi il pourrait tout à fait être autre chose et que peut-être même il pourrait se battre contre la colonisation, mais en instruisant les siens et en commençant par lui-même. Les protestants sont quand même venus aussi avec un côté un peu revanchard, il faut bien le dire. Parce qu'ils voulaient reprendre un petit peu les guerres des religions qu'il y a ici en Europe entre les catholiques et les huguenots. Mais ben, là, c'était dans un contexte africain et ça amener le gouvernement portugais à commencer à se méfier des protestants parce qu'il enseignait en plus les autochtones à lire et à écrire et en plus à lire la Bible dans la langue autochtone, ce qui n'était pas très catholique, il faut bien le dire.
Voilà.
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, grandola Vila Morena.
Portugais et angolais, j'imagine, ont tous cette chanson en tête. Que se passe-t-il pour vous, Armando Cox, pour vous et votre famille, après la révolution des œillets de 1974, dont on entend l'hymne, hein, si j'ose dire, cette révolution qui fait tomber la dictature de Salazar
au Portugal. C'est Moïse qui fait traverser le peuple élu pour traverser la mer Rouge. C'était absolument extraordinaire. Moi, j'étais adolescent et Grandola, ça a été pratiquement l'hymne des Portugais contre la dictature et la résistance, puisque parce que la ville de Grandola a été massacrée. Hein.
Mais alors, sur le plan familial, on en était resté à l'exil de votre père, qui part en forêt à un moment donné seul. Il va rejoindre Léopoldville, l'actuel Kinshasa. On est en 65, hein, à ce moment-là.
Et nous, on a suivi en 65.
Vous avez suivi. Arrive 74, cette révolution des œillets au Portugal. Donc là, la famille se dit, on peut rentrer en Angola?
Enfin, oui. Enfin, on peut rentrer en Angola. Mais il y a eu quand même une situation qui a fait que rentrer directement, c'était un peu compliqué parce que la guerre civile avait commencé à ce moment-là, en 75.
Jusqu'en 2002, oui.
Et ça a été une période très, très troublée. Parce que les trois partis politiques qui ont signé l'accord d'Arvor Et il y en a un qui s'est accaparé tout seul du pouvoir, avec l'aide de Cubains et tout ce qu'on a connu après avec la guerre froide.
Donc ce ne sera pas l'Angola, mais le Brésil pour vous.
Oui, bon, c'est vrai que, et en plus, la question de l'image qu'on avait de l'Angola, c'est vraiment l'image véhiculée surtout par mes parents. C'est-à-dire qu'ils nous racontaient que l'Angola, c'est un pays magnifique, et dès qu'il y a eu l'indépendance, il fallait absolument rentrer. Et c'est avéré que moi, j'ai besoin quand même de partir voir ailleurs. Donc c'était au Brésil, commencer déjà mes études, et ensuite, quelques années après, je rentre en Angola pour rejoindre mes parents quand ils sont installés, non pas dans le nord, ils sont installés à Luanda.
Arrivent les années 80 et en 85, voilà. Vous débarquez en France pour vos études, des études de théologie, parce qu'en fait, vous souhaitiez devenir pasteur.
Yasmine, je ne sais pas si c'est vraiment... moi, je pense que c'est que quand j'ai commencé à faire des études de théologie, c'était aussi une manière d'échapper au service militaire obligatoire en Angola, en fait. Si jamais je suis pasteur, eh bien, finalement, je ne pourrais pas tuer les autres frères angolais, d'autant plus qu'à l'époque, la guerre civile, c'était vraiment la période la plus importante de la guerre civile, quoi. Mm-hmm. Et du coup, j'ai opté pour la théologie. Mais au départ, moi, ce que moi je voulais faire, c'était pas du tout la théologie, c'est plutôt, je voulais être plutôt marin. J'ai commencé à faire des études pour être marin, mm-hmm. mais finalement, je me suis dit, bon, alors, dans ces cas-là, vaut mieux avoir une bonne planque et qu'avec les études de théologie, le gouvernement ne va pas m'emmerder et que finalement, bon, j'ai choisi de faire l'étude de théologie.
Mais vous aviez du mal à trouver votre lieu, on va dire, sur cette terre?
Non. On vivait surtout sur les rêves, ou plutôt des fantasmes des parents.
Le mythe du retour, etc.
Voilà, et l'idée du mythe du retour. Mais peu à peu, personnellement, je commençais un petit peu à m'émanciper aussi de cette image, parce que je voulais en créer ma propre réalité ou mon propre réel.
Alors finalement, le marin déçu sera rattrapé par le dieu musical. Vous allez devenir Armando Cox, journaliste, chroniqueur musical dans des revues et notamment sur Radio Grenouille, qui est une radio associative à Marseille, en France, où vous allez animer pendant 2 ans Cocotte Musique.
Salut à toutes et à tous et bonne entrée dans la Cocotte. Au menu de Cocotte Musique aujourd'hui, rencontre avec un musicien que j'apprécie particulièrement, il s'agit de l'Argentin Juan Carlos Cáceres. Dans la Cocotte, vous aurez les chroniqueurs attitrés. Restez avec moi et partagez ce moment en musique, bien sûr, c'est les sons d'ici.
Quand on vous demande d'où êtes-vous, que répondez-vous?
Ah, oh, quelle question. Je dirais plutôt d'ici, bien ancré dans le ici, mais aussi de nulle part.
Donc dans le ici, dans la francité?
Voilà, dans la francité. Et j'ai toujours l'impression que l'universel commence là où tu vis. C'est là mon début de l'universel.
Ouais, ça pourrait être une définition de la littérature, ça?
Ah, tout à fait, je pense aussi, ouais. Et je crois que ça pourrait aussi définir ma vie.
Dis-moi la musique que tu écoutes et puis je te dirai aussi qui tu es. Quelle musique vous avez mis en avant durant votre vie de chroniqueur, journaliste musical et notamment dans Cocotte Musique, dont on écoutait un extrait à l'instant?
Au départ, je pense que c'est aussi une question philosophique. Ça renvoie un peu à ce que j'ai vécu. J'ai tellement voyagé. Il y avait tellement de sons. Par exemple, le premier film que moi j'ai vu, ce n'était pas le film hollywoodien, c'est plutôt le film de Bollywood, par exemple. Mmh. J'ai commencé à écouter la musique ou la chanson française en faisant des correspondances avec les Français ou avec les Canadiens. Et mon environnement musical est vraiment très, très, très éclectique grâce à ces différents voyages, aussi bien physiques, mais aussi sonores.
Mais est-ce qu'on peut dire quand même que vous êtes dans une sensibilité, en tout cas panafricaine?
Ah oui, oui, oui. Sensibilité panafricaine. Et autant musicalement, j'ai écouté depuis mon enfance, par exemple, la rumba congolaise, que je connais assez bien, mais aussi la musique du Nigeria, avec des gens comme Fela Kuti, ou la musique ouest-africaine.
Mais avec un point de vue qui n'était pas forcément un point de vue occidental?
Non, ce n'était pas un point de vue occidental. Peut-être ma présence en Occident m'a permis un petit peu
d'élargir le spectre.
L'élargir le spectre. Parce qu'il faut bien le dire, hein, c'est que très souvent, on se connaît même entre Africains, souvent ici en Europe. Par exemple, la littérature francophone, avant que je mette les pieds en France, je ne connaissais rien. Alors que je suis passé quand même dans un pays francophone. Et pour la musique, c'est vraiment en Europe, j'ai pu élargir mon spectre. Bon, bien sûr, avec la musique brésilienne qui est quand même très ancrée à moi. Et
dans votre chapeau.
Voilà.
Alors, à part Radio Grenouille, vous avez pigé pour des journaux, notamment vous m'avez cité City News, qui est aujourd'hui Ventilo, c'est une revue panafricaine continentale qui n'existe plus. Et puis, vous avez défendu, et c'est ça que j'aimerais qu'on entende un tout petit peu pour en sol majeur, certaines pépites, dont celle-là peut-être.
Toca bem, não? Onde é que você tá olhando?
Cala a boca! Ele tá fazendo levantar o sol.
Ele fez o sol levantar.
Puxa, igualzinho ao Orfeu.
Agora você é o Orfeu.
Não.
Sim, toma essa florzinha. Toca uma musiquinha pra mim, toca.
Le Brésil encore, mais vous dansez déjà, version Orfeo Negro. Pourquoi?
Orfeo Negro. Parce que quand j'ai vu pour la première fois ce film, qui est une production franco-italo-brésilien, pendant tous les films, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais cette scène d'Hérudis qui est poursuivie par un bandit pour le tuer, tout ça.
Et puis là, dans cet extrait qu'on vient d'entendre, ces trois enfants qui font lever le soleil
et
en jouant.
C'est à la fin du film, pour dire quand même qu'il y a une renaissance pour toute chose. Et il y a ces gamins qui disent, mais est-ce que tu peux nous jouer une chanson? Ils disent, mais je ne sais pas. Mais si, tu peux rire. Il paraît que ta chanson peut faire lever le soleil. Et puis, le garçon commence à jouer. Et le soleil qui s'élève. Et la fille qui dit, oh, mais qu'est-ce que tu joues bien? Et en plus, tu fais lever le soleil.
Donc là, on va dire mythologie et musique qui fonctionnent ensemble, c'est ça qui vous fait pleurer?
Ah, c'est toute l'histoire d'Orfeu. J'étais adolescent, il faut quand même le dire. Et j'étais adolescent.
Vous avez
et
rêvé que... de prendre Eurydice ou Orphée dans vos bras?
Surtout que j'ai rêvé qu'Eurydice ne meure pas. Mais finalement, ouais, elle meurt. Mais à la fin, quand même, il y a cette renaissance. Et avec cet extrait que je trouve absolument d'un lyrisme, d'une poésie absolument phénoménale. Quoi.
Alors, dans votre besace d'aficionado musical, il y a ça aussi.
Eu me invoco, eu brigo, eu faço, eu aconteço, eu boto pra correr. Eu mato a cobra, mostro o pau pra provar, pra quem quiser ver e comprovar. Me chama Benedito, João do Salve, Silva, Belelé, o vulgo, nego dito, cascavé. Benedito, João do Salve, Silva, Belelé, o vulgo, nego dito. Tenho sangue quente, não uso pente, meu cabelo é ruim. Fui nascido em Tietê, pra provar pra quem quiser ver e comprovar. Benedito João de Santos Silva, Beleléu, vulgo nego dito.
Encore un poète oublié de la scène underground de Sao Paulo des années 70, qui est-ce?
Tamara Sonsão. On parle souvent des tropicalistes que tout le monde connaît. Mais Atamar Assunção, pour moi, c'est un des plus grands musiciens brésiliens que je respecte énormément. Tellement il était créatif, tellement sa musique ne pouvait entrer dans tous ces moules qu'on essaie de mettre la musique brésilienne. C'est autre chose. Quelquefois, je le compare à Gainsbourg. C'est un génie. C'est un bonhomme qui est mort très jeune, poète. Et elle vient, d'ailleurs, c'est pas par Cocorico, en tout cas, on dit que ses ancêtres, ils viennent de l'Angola. Donc, il pratiquait les candomblés et il suivait son père qui était aussi un magicien et un poète qui guérissait par la parole. Et lui, justement, sa musique au niveau de la parole, comme là, le début de cette chanson, « Moi, j'ai tué le serpent et je monte le morceau de bois avec lequel je l'ai tué ».
En fait, est-ce que vous diriez, Armando Cox, que finalement, les artistes qui vous intéressent prioritairement, ce sont ceux qui ne sont pas dans le système?
Non, justement, c'est ça. C'est les musiciens qui ne sont pas dans le système. Et c'est des musiciens, surtout, qui essaient de tracer d'autres voies, tout en utilisant ce qui est de leur tradition, de leur culture, mais essayer un petit peu de le transcender. Transcender le réel, non pas la réalité, mais transcender le réel.
Alors, on a parlé de musique un petit peu, on a flirté avec le mot littérature deux ou trois fois, pour dire qu'à force de vous balader comme ça dans les coursives cachées de nos trésors d'humanité, vous tombez un jour sur ce Claude Maquet. Donc cet écrivain né en 1889 en Jamaïque, naturalisé américain, est présenté comme un électron libre de la renaissance de Harlem, ce mouvement qui se veut être un renouveau de la culture afro-américaine, avec comme initiateur, entre autres, un certain Dubois. Et l'un des romans de Maquet, emblématique peut-être de ce mouvement, c'est Banjo, mis en musique par Guylaine Renaud, mixé par Imhotep.
Banjo, c'est un vrai magicien pour réunir les communautés noires de la ville. Surtout s'il est en forme et qu'on lui réclame « Shake that thing » en criant à tue-tête. Alors il se lance avec sa folle et merveilleuse manière de jouer. Et ce soir-là, ça excitait une Algérienne, une noire métissée d'arabe. Et un désir irrésistible de secouer ça l'a envahie. Elle a foncé en dansant jusqu'au milieu de la piste, s'est mise à onduler comme si elle dansait un chimi très vulgaire. Ses cheveux courts se dressaient luisants et crépus comme un nid d'oiseau. Elle était bien charpentée, bien en chair, et ses lèvres pleines de sensualité lançaient un défi sauvage. « Du coin trop !» s'écrie-t-elle quand la musique cesse. Et la musique reprend. Les Sénégalais se pressent sur la piste. Ils dansent mieux s'ils sont deux hommes. Leur pas est plus fort. Ils dansent de façon plus violente, plus sauvage. Des Nigériens en bleu de chauffe et des soldats malgaches en kaki dansent ensemble. Un Martiniquais danse avec sa mulâtresse qui fait étinceler ses dents en or. Un sergent sénégalais tourbillonne avec sa belle blonde. Un boxeur ivoirien fait des figures avec sa dulcinée noire luisante. Et Banjo, souriant, chantant, dents blanches, grande bouche et espadrille, dirige l'orchestre et chante Banjo, joue-moi ça, secoue-moi ça.
Magnifique. Comme vous le dites, Armando Cox, il n'y a pas mieux que la littérature pour raconter la dimension musicale d'une ville. Est-ce que c'est ça la puissance de ce roman Banjo de Claude Maquet?
Tout à fait. On voit vraiment que ces romans Banjo, c'est tournoyant vraiment comme un tango de Gardel. Donc là, Imhotep reprend ces mouvements qui te fait presque entrer en transe. Oui, et effectivement, la
Banjo, c'est votre premier choc.
Banjo, c'était mon premier choc littéraire, en tout cas.
Quand on aime, on ne compte pas. Vous allez devenir, on va être obligé de résumer un peu cette identification à Maquet. Vous nous direz pourquoi cette identification passionnée, je dirais. Mais vous allez devenir Armando Cox, président et fondateur du collectif Claude Maquet en 96. Et vous allez souhaiter, comme vous dites, rendre Maquet à Marseille.
J'habite Marseille depuis bientôt une trentaine d'années. Souvent, ce que j'ai constaté, c'est qu'on parlait de Blaise Cendrars, on parlait de
Pagnol.
On parlait de Albert Londres, mais rarement on citait Maquet. Même dans l'environnement d'intellectuel, disons qu'il pourrait exposer l'histoire de Marseille, mais c'était une histoire souvent vue d'un axe que j'ai trouvé un petit peu curieusement, je ne dirais pas raciste, mais
discriminant. Alors que Maquet est un Marseillais d'adoption.
Alors que Maquet, c'est un Marseillais d'adoption. Une parenthèse, si vous me permettez, Yasmine, c'est qu'en fait, quand j'avais fait une première émission à la radio, à Radio Grenouille, j'ai fait lecture de Banjo. Il s'est avéré qu'il y a une dame qui m'a appelé en disant « Mais c'est très intéressant parce que je suis professeur à l'école d'architecture de Marseille. » Il s'avère que Banjo, il est dans la lecture obligatoire à mes étudiants parce que c'est les rares livres qui décrit d'une façon minutieuse ces Marseilles qui n'existaient plus.
Donc il n'était pas si oublié que ça. Alors, rendre Maquet à Marseille, ça va être possible, surtout le jour où vous entendez parler, alors il va falloir résumer vraiment cette histoire de roman perdu, Romance in Marseille, qui est sous nos yeux aujourd'hui. Ce tapuscrit va vous parvenir sous une forme inattendue un jour.
Inattendue, d'autant plus que ce n'est pas ça que j'ai cherché, moi. Donc, et je ne cherchais pas, d'autant plus qu'on ne peut pas parler, à proprement dire, d'une découverte, parce que les romans étaient connus. Mais l'histoire, c'est que pourquoi ces romans n'étaient pas publiés ni par les Américains, ni à Yale, ni à Harlem, tout ça. Bon, Michel Fabre, c'était un des spécialistes de la littérature noire américaine. Et c'est lui qui a traduit la dernière édition qu'on a de Banjo, par exemple. Mm-hmm. Et dans le postface qu'elle avait rédigé, elle avait dit « Le premier titre auquel Claude Mackay avait pensé pour Banjo, c'était « Romance in Marseille ». Donc, je prends ça comme une totalité.
Bon, écoutez, le miracle a lieu puisqu'il est publié aux éditions Héliotropisme aujourd'hui. Et on va en lire un extrait. J'espère que vous êtes prêts à vous transformer en lecteur pour En sol majeur de ce roman. Donc, de « Romance in Marseille », c'est page 22. Après qu'on ait appris que le héros, j'allais dire votre héros, c'est pas le vôtre, hein, c'est celui de Claude Mackay, Lafala, qui est un docker ouest-africain, viennent d'être amputés de ses deux jambes et son compagnon de chambrée, qui est un noir américain, se met à lui taper la discute.
Il expliqua à Lafala qu'il y avait des avocats dans la grande ville qui savaient tirer de l'argent de toutes sortes d'accidents. Il lui demanda de lui raconter tous les détails de son embarquement clandestin, comment il avait été découvert, comment il avait été traité, les types de débarras dans lesquels on l'avait enfermé. « C'était des cabinets, » dit Lafala. « Tu veux dire un cabinet de toilettes ? » ?»« Non, de vraies chiottes. » »« Mais c'est pas possible, nom de Dieu. » »« On ferait pas ça à un porc. » C'est pourtant ce qu'ils m'ont fait, et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Après m'avoir donné à manger, ils n'ont même pas pensé que j'avais besoin de prendre un peu d'air. Et l'Américain secoua la tête et rigola, franchement. On ne sait jamais ce qu'un homme blanc va faire. Mais c'est pas grave, je vais refiler ta petite affaire à un avocat blanc. Parce que moi, je ne fais pas confiance aux avocats négros. Tu te fais embominer à tous les coups. Lafala a voulu prendre la défense des avocats noirs. Les noirs américains sourient de toutes ses dents. Ta race, elle te servira à rien pour te sortir de ce foutu merdier, mon vieux. Avec les noirs, tu t'enfonces encore pire, parce que ils sont carrément, mais alors, carrément à la traîne. Je vais te dégoter un avocat bien batailleur, et fais-moi confiance, quand il aura fini d'arranger ton affaire, tu auras une paire de guiboles pour marcher et plein de dollars dans tes poches.
Comme marque-page.
Merci à Armando Cox pour cet exercice de lecture de Romance in Marseille, donc de Claude Mackay. J'imagine que l'auditeur en sol majeur est en train de se demander sûrement comment Lafala, ce héros, a perdu ses jambes. Dans quelles circonstances ?
Bon, déjà, il faut souligner que cette histoire part vraiment d'une histoire vraie.
C'est un fait divers.
Ouais. Voilà. C'est une histoire qui se passe à Marseille. Il s'avère que ce pauvre bonhomme, dans le roman qu'on appelle les jambes cassées ou les jambes coupées, c'était une connaissance de Claude Mackay, d'origine nigériane. Il a tenté son voyage clandestinement dans un bateau de la compagnie Fabre, ou Fabre Line, et qui tente sa chance aux États-Unis. Hein. Et il s'est avéré qu'il a été découvert dans le bateau pendant le voyage et enfermé, c'est des cales où il y a des passages de l'eau pour refroidissement du moteur du bateau. Et c'est avéré qu'en arrivant à Ashland, à New York, eh ben, ses jambes étaient congelées et la seule chose qu'on devait faire, c'est amputer les deux jambes.
Voilà. Et alors, à partir de ce handicap, et là, c'est le roman aussi rejoint sans doute la réalité. Les avocats vont avoir idée de comment faire de ce handicap une fortune.
Ah oui, ce qui est très intéressant, et c'est là qu'on découvre que Mackay, c'est un formidable écrivain, c'est que la compagnie Fabre, la police américaine, voyant cela, il a obligé la compagnie Fabre de renvoyer Wilson Dédé à Marseille. Et la compagnie Fabre essaie de discuter avec lui en disant « Écoutez, quand vous allez arriver à Marseille, on va vous dédommager, on va donner un peu d'argent. Mm-hmm. » Or, quand il arrive à Marseille, on le fout en prison. Et Mackay, il a entendu cette histoire que la presse locale n'avait pas du tout
relayée.
Et il essaie de sauver l'homme Dédé en écrivant au directeur de la compagnie Fabre, en disant que voilà, je suis un écrivain et j'ai envie d'écrire une histoire sur les marins de port et notamment votre compagnie.
Et la compagnie prend peur.
La compagnie fait peur. Mmh. Et finalement, les Québécois, écoutez, faites venir la personne. Donc, on les sort de la prison. Et finalement, le deal est passé entre la compagnie Fabre et Claude Maquet.
Alors, autour de Lafala, là, je reviens au personnage de roman. On va découvrir, je pourrais dire, une bande d'escogriffes autour de lui qui vit la nuit et d'expédients plutôt louches. Quel est ce Marseille disparu que Claude Maquet fait ressurgir?
Alors, contrairement à Banjo, par exemple, dans ses romans, donc « Romance de Marseille », il y a très peu d'évocations des lieux emblématiques de Marseille, contrairement à Banjo. Mm-hmm. D'ailleurs, dans le tapiscrit souvent qu'on a avec nous, on voyait par exemple la place de Marseille, c'était plutôt avant Dreamport, mm-hmm. le port des rêves. Et ensuite, il effaçait, il mettait Marseille. C'est comme s'il voulait dire que c'est Dreamport, le port des rêves, mais ça pourrait être n'importe quel port peut-être de la Méditerranée. Mmh, hein, mmh. Et que les ports constituent ce lieu de passage où tous les rêves sont possibles.
Mmh. Mais dans ce roman Signe Marseille, c'est un Marseille interlope finalement qui est décrit,
oui.
Avec des personnages, Aslima et La Fleur qui sont des prostituées, Titin qui est le maquereau, Babel qui est un passager clandestin d'origine antillaise, mmh. des îles britanniques. C'est un Marseille interlope.
C'était Marseille interlope et c'était Marseille aussi dans lequel on découvre d'une liberté sexuelle quelque chose qu'on ne connaissait pas dans ces milieux-là, et particulièrement les milieux prolétaires, il faut bien le dire. Mm-hmm. Parce qu'on voit qu'il y a des femmes qui sont ouvertement lesbiennes, on voit des rapports homosexuels entre des noirs et des blancs, ou des noirs et des noirs. Mais ce qui a fait dire, par exemple, à certaines personnes qui ont fait des critiques des romans de Marseille, c'est un livre queer. Ben bon,
un livre queer.
Voilà. Mm-hmm. On peut pas.
Vous diriez ça?
Ah oui, aussi. Ouais. Mm-hmm. Mais en tout cas, on ne peut pas les résumer à ça parce que on aborde aussi des questions politiques.
Quelles sont les grandes thématiques, vous diriez?
Les grandes thématiques de l'époque. Par exemple, il y a tout un débat sur les retours en Afrique avec Marcus Garvey. Il y a tous ces discours aussi qui passent au milieu des communistes marseillais et notamment en lien avec certains Africains, notamment un qui s'appelle Lamine Senghor, que Maquet avait connu, et ils allaient discuter souvent à la maison des gens de mer. Or, ces maisons des gens de mer, c'était là aussi qu'il y avait pas mal de discours enflammés communistes, et c'est là qu'est né aussi le premier syndicat, d'ailleurs, des dockers. Et donc, il y a tous ces
ingrédients.
Tous ces ingrédients qui font aussi de Maquet, en disant que c'est vraiment un observateur très affiné, et on sent aussi que Maquet était aussi journaliste.
Alors le livre est écrit en 1933, c'est-à-dire en pleine période coloniale, et donc à la fin de ce mouvement dont on parlait rapidement, Renaissance de Harlem, dont certaines têtes ne voulaient pas d'ailleurs la même chose à l'intérieur du mouvement. Certains voulaient l'égalité avec les Blancs, d'autres voulaient favoriser l'émergence d'une élite noire. Mais ce n'est pas tellement le sujet. Vous dites que Maquet, lui, n'écrit ni pour les négrophobes, ni pour les négrophiles.
Oui. Ni pour les Noirs qui n'aiment pas manger le côte de porc, pour ajouter. Et effectivement, c'est pour dire qu'on ne peut pas faire la littérature pour un groupe bien déterminé de gens. La littérature doit dépasser une histoire racontée par un Japonais. Il peut aussi m'affecter, moi. J'ai pu découvrir, même comprendre la réalité de ce que je vivais ou la réalité de ce que nous vivons, par exemple, ici en France, en relation avec l'immigration, par exemple, l'immigration maghrébine ou africaine, ouest-africaine, mm-hmm. Je l'ai compris très curieusement au Brésil avec la communauté nippo-brésilienne du Brésil.
Ah oui.
Ils avaient exactement le même problème. C'est-à-dire que le phénomène de départ en disant qu'un jour on reviendra, et tout ça, alors qu'au Brésil, qui peut imaginer qui est la communauté la plus importante hors du Japon, se trouve à São Paulo. C'est comme un truc complètement, complètement dingue. On ne peut pas avoir ces deux sociétés, mais totalement
opposées.
Tellement opposées. On ne peut pas l'imaginer qu'un Japonais puisse danser la samba et tout ça. Et voilà ce qui est intéressant dans la littérature, c'est ça. C'est-à-dire que un phénomène qu'il décrit, les choses qu'il manquait décrit, ça pourrait se passer dans n'importe quel port du monde.
Oui, ces personnages sont noirs par hasard.
Ah oui, ils sont noirs par hasard, tout à fait. J'aime bien cette expression qu'ils sont noirs par hasard. Et comme disait l'autre, finalement, souvent, est-ce qu'on est noir tout le temps? Non, mais il y a des moments où je ne me sens pas du tout noir, quoi, parce que c'est les autres qui me renvoient à l'image que je les suis. Mais quand je me rase tous les jours, je ne pense pas du tout à ma noirceur.
Bonjour Marseille, ma ville.
Bonjour ma ville.
Ma ville.
Ma belle.
Tu vois, les premiers froids ont chassé tes faux amis de passage.
Tu te réveilles lentement.
C'est la morte saison.
Et je suis émerveillé. Toujours.
Alors tu me reviens.
Pourquoi faut-il que tu
sans grimace, sur place publique, sans grimage.
Pour plaire à ceux qui n'en veulent qu'à ton nom.
Vivante.
Je souffre de tes humiliations.
Marseille de tous les temps. Heure. Marseille de tous les jours. Relève la tête.
Marseille aux 100 visages.
Tu es grande et forte et digne.
La plus belle ville du monde.
Marseille, filmée en noir et blanc par Paul Carpitain en 1960. Encore une archive que vous m'avez glissée sous le manteau, Armando Cox. C'est le Marseille que vous pleurez, vous?
Oui. Bon, déjà, pour ceux qui connaissent Carpitain, et c'est quelqu'un qui a été vraiment très souvent du côté le plus gauche quand même de la réalité politique marseillaise.
Stalinien.
Et la défense presque. Mais contrairement par exemple à un Marseille monocolore, hein, qui est souvent présenté dans le film des Pagnols, tout ça. Il faut dire aussi, même dans le film de Carpita, on voit très très peu des Noirs. Alors, il a beaucoup travaillé quand même dans ses films, Les Rendez-vous sur les quais, tu vois. Bon, on voit très très peu de Noirs, ou pratiquement pas du tout, et même pas de Maghrébins, qui étaient quand même assez nombreux à travailler sur les quais de Marseille. Donc, c'était Marseille que j'adore, mais c'est Marseille ouvert. Et c'est Marseille qui est né d'un échange entre Protis et Égyptis, hein, l'un celte et l'autre plutôt grec. La Marseille, c'est ça, parce qu'en plus, c'est une ville qui est, j'aime bien cette expression que souvent on répète, que Marseille appartient à ceux qui viennent de large. Ça, c'est une expression de Blaise Cendrars. Et je pense qu'effectivement, c'est ça. Marseille attire les rêves. Ça se réalise ou pas, mais ça, c'est une autre histoire.
Oui. Bref, vous avez réussi, vous, en tout cas, à réaliser ce rêve de rendre à Marseille Claude Maquet. Une dernière question sur ce roman. Pourquoi cette adhésion absolue, littéraire, on a bien compris, mais cette proximité, pourquoi cette identification passionnée, comme je disais tout à l'heure, à cet auteur jamaïcain, naturalisé américain, marseillais d'adoption?
D'abord parce que c'est un personnage interlope et les personnages interlopes m'ont toujours attiré.
C'est votre kiff.
C'est mon kiff. Et parce que je partage, moi-même, je suis de ces mondes-là, de gens qui sont ici et ailleurs à la fois. Ce n'est pas une question de schizophrénie. Mais j'ai vu cette forme de schizophrénie comme Claude Maquet. Il peut être aussi beaucoup de choses comme notre vie, comme. Maquet, on peut les mettre dans toutes les cases, mais ça, on s'en fiche un peu.
Noir, blanc, bisexuel, homosexuel.
Ça, ce n'est pas vraiment. Ça n'a jamais été mon souci.
Schizophrène et diasporique.
Et diasporique, voilà. Et je pense qu'il y a cette forme d'identité rhizome qui m'ont toujours intéressé. Et je pense que c'est aussi comme ça que je vois le monde, ce monde qui sera demain créole ou ne le sera pas du tout.
Je peux vous demander à quoi tient ce goût pour le chapeau tarte au porc?
Franchement, je ne sais pas du tout, mais c'est un journaliste un jour qui me l'a fait remarquer. Hein, mais j'ai toujours porté un chapeau et il s'est avéré que c'était ce style-là. Et à tel point que si je ne porte pas un chapeau, les gens ne me reconnaissent pas dans la rue. Donc il faut que je porte toujours un chapeau.
Cher Armando Cox, il y a une réponse musicale puisque le « Goodbye Pork Pie Hat », voilà, c'était aussi un célèbre morceau de Mingus en hommage à John Coltrane.
À John Coltrane, pardon. qui était l'homme aussi qui portait pas mal de chapeaux.
Voilà. Hein. Romance in Marseille aux éditions Héliotropisme, c'est le conseil en sol majeur de lecture en cette rentrée. Avec une toute dernière question pour vous, Armando Cox. David Zay ou Purcell pour se quitter? Musique angolaise ou musique baroque?
J'ai choisi plutôt Purcell.
Pourquoi ?
Tout simplement, cette musique, et Purcell, c'est un de mes compositeurs préférés, et qui m'a d'ailleurs fait découvrir, curieusement, Jethro Tull et la musique progressive. Et ouais. C'est vrai que cette chanson, c'est moi quand on l'écoute, ça me renvoie à un autre album de Jethro Tull qui s'appelle Aqualung, qui est un album que j'adore.
Ça y est, on est déjà dans une autre émission de Radio Cocotte.
Cocotte musique.
Cocotte musique. Les ondes de Purcell pour en sol majeur, émission à réécouter en podcast sur votre application Pure Radio et bien sûr sur nos réseaux sociaux à retrouver sur Facebook et Twitter. Et pour le meilleur, derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10, temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain avec le réalisateur Philippe Lacote. À demain.